Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h, Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition au menu de ce 7h. La production de cacao sans déforestation dans le cadre du projet Promir est rentrée dans sa phase active. Les résultats à mi-parcours ont été présentés par le Fonds alimentaire mondial FAO. Plus de précisions dans ce journal. Un mot de santé dans cette édition avec la lutte contre le cancer du sein. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie a lancé ses activités en présence de la première dame Dominique Ouattara. Et puis le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell en visite à Pékin juge l'ordre d'évacuation de Gaza totalement impossible dans sa mise en œuvre. Les détails dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, lancé le 27 juillet 2021, le projet Promir entendait promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire et mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et la FAO dans 10 villages de chacune des 3 régions de couverture du projet que sont la Mé, la Niébitiassa et le Sud Comoé. Ce projet a été présenté à mi-parcours par la FAO contre signé Jean-Claude Mabéa.
D'entrée de jeu, le colonel Assamoah Abbé Jonas, coordonnateur du projet Promir à la FAO, a rappelé l'objectif visé.
C'est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, issues donc de la déforestation et la dégradation des forêts, à travers le mécanisme RED+. C'est un mécanisme international auquel notre pays a adhéré en juin 2011 pour donc lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Nous réalisons des activités communautaires, des activités de restauration forestière, des activités donc de gouvernance locale et des activités d'appui aux différents producteurs et aux coopératives de cacao biologique au bénéfice de 7550 bénéficiaires directs dans les différentes zones du projet avec 30% de femmes.
Il a ensuite présenté certains résultats obtenus à mi-chemin.
Nous avons à ce stade élaboré 15 plans de développement locaux sur les 23 plans attendus dans les villages du projet. Nous avons aussi réalisé des activités de sensibilisation des populations à adopter les bonnes pratiques agricoles. Nous avons à ce stade réalisé 163 hectares de restauration forestière dans les 3 villages du projet sur 150 qui étaient non planifiés. On a converti 850 hectares de parcelles existantes en 6 zones agroforestières.
Le colonel Assamoah Abbé Jonas a enfin énuméré quelques-unes des perspectives du projet Promir.
On doit faire du reboisement, on doit aussi faire des enrichissements sur 1500 hectares dans les 3 régions, 3650 hectares de parcelles existantes à convertir en 6 zones agroforestières. L'agroforesterie, c'est l'intégration de l'arbre dans les systèmes de production agricole ou bien d'élevage.
À noter que le projet Promir a été financé par le Fonds vert climat pour la période 2021-2026.
Rendons-nous à Yamoussoukro où Kandia Camara Kamisoko, ex-ministre des Affaires étrangères, est depuis le jeudi 12 octobre 2023 la nouvelle présidente du Sénat ivoirien. Son élection à la tête de cette institution suscite bien des réactions. Parmi ces réactions figure celle de quelques présidents d'institutions de Côte d'Ivoire, à savoir le président du Conseil économique, environnemental et social à Kaoulé, l'inspecteur général de l'État à Awando Lithiophile, le président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobalo, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo. Ils sont tous au micro d'Emile Yao.
Il faut des institutions fortes tenues par les hautes personnalités de ce pays. Et ce qu'il faut noter ici, c'est le fait que nous avons la toute première femme de Côte d'Ivoire, conformément aux vœux du président de la République, qui tient aujourd'hui la deuxième chambre parlementaire, la haute chambre. Je crois que cela est à saluer et cela démontre que les institutions sont en marche dans ce pays pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire avec le gouvernement.
L'élection
l'élection de Mme Kandia Camara comme présidente du Sénat, la deuxième chambre de notre Parlement. Nous sommes contents, d'abord parce que nous connaissons la personne. Nous savons que c'est un très bon choix qui a été fait et avec elle, nous sommes sûrs que cette deuxième chambre irait toujours de l'avant.
Nous sommes fiers de la désignation de Mme Kandia Camara en tant que première femme ivoirienne qui préside une institution parlementaire à l'image du Sénat. C'est une vraie fierté, une légitime fierté et nous plaçons tout l'espoir que le Sénat va jouer pleinement son rôle sous sa responsabilité en termes de renforcement du développement local parce que le Sénat a cette particularité d'être la représentation des collectivités décentralisées et nous plaçons tout l'espoir étant donné que la présidente du Sénat est également maire de la commune d'Abobo, nous plaçons tout l'espoir que la présence de Mme Kandia Camara en tant que présidente du Sénat va booster le développement local.
Le président de la République en désignant la ministre d'État Kandia Camara vient donc de faire une fois de plus un geste envers les femmes. Et comme il a déjà montré, il a toujours dit que les femmes occupaient une place importante dans notre société et qu'il avait fixé des objectifs, ce qui nous a amené à adopter au plan de la loi la parité avec les femmes, en tout cas une quote-part importante pour les femmes. Et de façon historique, c'est la première femme qui va donc diriger une institution. Nous sommes deux chambres et mes relations avec la ministre d'État Kandia datent depuis 1995. Donc c'est vous dire le parcours que nous avons connu ensemble. Et donc je suis un homme heureux. Je voudrais saluer le président Aoussou qui a tout donné, homme de devoir, homme d'engagement, homme de mission.
C'était à l'instant les réactions des présidents d'institutions de la République de Côte d'Ivoire suite à l'élection de la présidente du Sénat. Les propos sont recueillis par Émile Yao. Un mot de santé, la digitalisation dans la lutte contre le cancer du sein, de la théorie à la pratique, tel est le thème officiel des activités de la campagne d'octobre rose 2023 lancée le mercredi 11 octobre par la première dame Dominique Ouattara au Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie. Mata Touré y était, elle nous fait le point.
Cette campagne qui se déroule au cours du mois d'octobre vise à sensibiliser à toutes les couches sociales sur le cancer du sein chez la femme et l'intérêt à se faire dépister. Elle vise près de 5 millions de femmes. Le professeur Didier Coco Koulibaly Judith est la directrice du Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie. Elle nous dresse ici un bilan des résultats obtenus depuis son ouverture.
La Côte d'Ivoire a réussi depuis l'ouverture de cet hôpital à réduire de 25% le risque de décès par cancer du sein. L'hôpital a reçu plus de 10 000 nouveaux patients et 1818 personnes exactement au 30 septembre 2023 avaient été reçues ici pour un cancer du sein. À 3 ans, tous les stades confondus, 63 personnes étaient en vie sur 100. Mais lorsqu'on a extrait le sous-groupe de personnes chez qui ça avait été découvert tôt au décours d'un dépistage, on s'est rendu compte que 81 personnes étaient en vie. D'où l'intérêt du dépistage.
Pierre Ngoudemba, ministre ivoirien de la Santé, nous fait le point. En Côte d'Ivoire.
Le cancer constitue un véritable problème de santé publique dans le monde. Et la Côte d'Ivoire, notre pays n'est pas en reste, avec plus de 17 300 nouveaux cas de cancer par an. Le cancer du sein en Côte d'Ivoire représente 19% de tous les cancers et 33% des cancers féminins. Le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt et correctement traité.
La première dame Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, a relevé l'importance de la plateforme digitale baptisée CNRAO Stop Cancer qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage.
Rendons-nous à Mans, dans la région du Topi, où le corps préfectoral, les transporteurs et la direction départementale des transports veulent juguler le coût du tarif des transports dans la région après l'augmentation du coût du carburant observé depuis quelques temps et ce qui pourrait impacter le tarif des transports. Objectif, harmoniser leurs différents points de vue pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Les détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Topi.
À l'entame des échanges, les transporteurs ont fait connaître leurs préoccupations du moment.
Monsieur le préfet, nous on a accepté qu'on ne va pas augmenter le transport compte tenu de l'augmentation du carburant parce que le gouvernement a accepté de nous accorder les 33 barrages. Mais il y a barrages partout. Dans l'année, il y en a. Biankouma, il y en a. Vélé, il y en a. Vumbé, il y en a. Sous la de Kouibri, il y en a. Si on veut calculer, il y a 6 à Manville. Monsieur le préfet, essayez de voir le problème des barrages. C'est ce que nous demandons.
Face à l'enjeu lié au volet sécuritaire, le préfet des régions du Tonkpi, Wom Lignon Célestin, préfet du département de Mans, s'est voulu clair et précis.
On ne peut commercer que dans un environnement sécuritaire appréciable, que dans une paix appréciable. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Et donc, quand vous posez des préoccupations, il faut en tenir compte. Et n'oubliez pas, le terrorisme est une guerre asymétrique qui peut subvenir à n'importe quel endroit de la planète. Et c'est lorsque ça frappe qu'on est surpris et qu'on prend les dispositions. Or, la Côte d'Ivoire a décidé d'être dans la prévention, d'où la politique de police de proximité. C'est cette activité qui doit se mener avec vous, mais à partir d'un écosystème. Si déjà le maillage ne permet pas de perdre telle activité, on est tous livrés à ces choses-là.
Sentiment du directeur départemental des transports de Mans. En fin de rencontre, Gebi Irie Wilson.
C'est de remercier les transporteurs de la région de Tonkpi qui se sont donc alignés sur la décision du gouvernement. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs de transport à Mans.
A noter que la présence des chefs de commandement de police et de la gendarmerie était observée à cette tribune d'échange. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Hors du continent, Israël a ordonné vendredi d'évacuer en 24 heures vers le sud tous les civils de la ville de Gaza avant une offensive terrestre attendue contre le Hamas en représailles à l'attaque la plus meurtrière de l'histoire d'Israël la semaine dernière. En tant que représentant de la position officielle de l'Union européenne, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré l'ordre d'évacuation est totalement impossible à mettre en œuvre. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse à Pékin au dernier jour de sa visite de 3 jours. Imaginez que l'on puisse déplacer 1 million de personnes en 24 heures dans une situation comme celle de Gaza ne peut que résulter d'une crise humanitaire, a-t-il ajouté. Et restons toujours avec la situation au Proche-Orient. Après un moment d'accalmie, l'on note depuis plus d'une semaine une reprise des affrontements entre Israël et le Hamas, une organisation militaire et islamique palestinienne qui a lancé le samedi 7 octobre 2023 à l'aube une offensive baptisée Déluge d'Al-Aqsa. Quelles pourraient être éventuellement les solutions de sortie de crise autres que dans la zone? Quelles pourraient être les conséquences diplomatiques et économiques dans les relations entre les deux pays? Qui pourrait être à l'origine de ce conflit ravivé au Proche-Orient? Élément de réponse dans ce décryptage du professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody.
Les conditions de vie des populations palestiniennes dans la bande de Gaza, les représailles au quotidien d'Israël sont autant d'éléments qui expliquent cette relation très tendue. Sur le plan économique, c'est d'abord une situation difficile pour les populations de la bande de Gaza qui vivent au gré des humeurs des autorités israéliennes qui peuvent couper le courant ou l'eau quand elles veulent. Mais en même temps, ça va encore rendre les relations beaucoup plus difficiles sur le plan politique. Les différentes étapes de perspective de dialogue politique qui s'est profilé à l'horizon vont être remises en cause. Mais au-delà d'Israël, les pays arabes vont être soumis à une forte pression de la part de leur opinion nationale. Et cela va naturellement avoir une répercussion dans leurs relations avec Israël. Dans un premier temps, il faut que l'ONU joue son rôle. Il faut que la communauté internationale, les alliés d'Israël, puissent exercer une certaine forme de pression pour réduire les bombardements et peut-être chercher d'autres voies de représailles, mais sans vraiment tout détruire de façon azimut. La deuxième option peut venir également à l'intérieur même d'Israël, des populations qui ont été choquées par la violence du Hamas. En tout état de cause, il faut se retrouver autour de la table de négociation parce que les conséquences du part et d'autre sont vraiment, vraiment désastreuses et c'est pas bon pour la sous-région et l'image même de l'humanité.
C'était à l'instant le décryptage du professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur la crise entre Israël et le Hamas. Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. La production du cacao sans déforestation dans le cadre du projet Promis est rentrée dans sa phase active. Les résultats mi-parcours ont été présentés par le Fonds alimentaire mondial FAO. Et puis un mot de santé, le cancer du sein, le Centre national d'oncologie médicale et la radiothérapie a lancé ses activités en présence de la première dame Dominique Ouattara le mercredi dernier. Et puis le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell en visite à Pékin juge l'ordre d'évacuation du Gaza totalement impossible dans sa mise en œuvre. Merci et prochain rendez-vous de l'information, 8h.